La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors pour cette émission de La Voix des Arts que nous abordons aujourd'hui, et dans le but toujours de mettre en lumière les créatrices au cinéma, je vais encore vous présenter une compositrice anglaise née en 1922, laquelle se nomme Doreen Marie Carwitten, connue également sous le nom de Mary Alwyn, le nom de son époux, et qui est entre autres auteur de musique de film et donc en relation avec notre thème sur les créatrices au cinéma. Alors Doreen Marie Carwitten, qui n'est pas encore Mary Alwyn, apprendra la musique avec sa mère, professeure de musique, qui l'initiera au piano, au violon et au violoncelle. Elle commencera à composer à 16 ans, en mettant en musique pour voix et piano un poème d'un poète anglais nommé Wordsworth, lequel est né au XVIIIe siècle et dont la poésie est considérée comme romantique. Et c'est à 19 ans, en 1941, qu'elle rentrera à la Royal Academy de musique de Londres pour y suivre un enseignement musical complet. Et l'un de ses professeurs d'harmonie et de composition n'est autre que son futur mari, William Alwyn, qu'elle retrouvera en 1961 à l'âge de 39 ans et dont elle deviendra la secrétaire et la copiste avant de devenir son épouse assez tardivement, en 1975, c'est-à-dire à l'âge de 53 ans. Et elle-même aura été enseignante à la Royal Academy de musique de Londres. Alors c'est en 1946, elle a alors 24 ans, qu'elle rentre dans une société spécialisée dans le divertissement qui est la RANC, et ce pour travailler pour le cinéma britannique en tant qu'assistante du chef d'orchestre écossais Muir Mathieson, qui lui est spécialisé dans la direction musicale de films britanniques et américains. Et c'est donc ainsi qu'elle débutera sa carrière de compositrice de musique de film et également de musique de documentaire. Et ceux-ci seront diffusés de 1948 à 1955. En outre, son travail l'amènera à participer aux arrangements musicaux avec un chef d'orchestre nommé Adrian Boult d'un documentaire sur la reine Elisabeth II intitulé en anglais « Elizabeth is Queen ». Bon, vous avez compris qu'Elisabeth, que la traduction c'est Elisabeth est reine, ce qui signifie également qu'il s'agit d'un film, celui-là, le film officiel du couronnement de la reine. Et ce documentaire sortira en 1953. Alors à part cela, sa première composition pour film sera intégrée dans une comédie dramatique britannique réalisée par le producteur et réalisateur Sidney Gilliatt, sortie en 1948 et intitulée « London Belongs to Me », le compositeur en chef se nommant Benjamin Frankel. Pas Franklin, hein, Frankel. Et la même année, un autre réalisateur nommé Terence Fisher sortira un film également britannique intitulé « To the Public Danger », traduit par « Danger public ». Et Doreen Carwitten sera chargée de toute l'illustration musicale. Alors le film relate la rencontre de quatre personnages dans un pub anglais et l'alcool aidant, comment ils arrivent à provoquer un accident de voiture. Bon, il s'agirait en quelque sorte d'un film de mise en garde contre les abus de l'alcool au volant. Alors pour illustrer mes propos, rien de mieux que de nous mettre dans l'ambiance avec la musique de Doreen Carwitten, celle-même utilisée pour le film « To the Public Danger » ou « Danger public ».
Thank you.
Alors maintenant, je vais citer quelques films dans lesquels nous pouvons trouver ses compositions, ceux où elle a composé l'ensemble de la musique. Alors c'est par exemple Boys in Brown de 1950. J'ai traduit par Garçon en marron, hein, je ne sais pas si c'est le titre exact, mais enfin c'est en tout cas en français c'est Garçon et c'est marron, ça c'est clair. Réalisé par l'Irlandais Montgomery Tully. Également Man Trap de 1952, que l'on traduit par Piège, et publié aux États-Unis sous le titre de Man in Hiding, et réalisé par le Britannique Terence Fisher. Ou encore Men of Sherwood Forest, traduit par La Revanche de Robin des Bois, et réalisé par Val Guest. D'ailleurs, nous allons encore écouter une musique de Doreen Cartwitten, puisque nous avons une compositrice sous la main, si je puis dire, et que nous pouvons bénéficier de ses compositions. Alors, je vous propose celle du film Man Trap, une sombre histoire où il est question de meurtre et d'un innocent injustement incarcéré qui s'évade de prison et retrouve le véritable meurtrier. Alors, on peut deviner que la suite ne sera pas de tout repos. Mais place à la musique. Alors, en dehors de ses compositions et dans sa vie quotidienne courante, apparemment, elle aurait beaucoup assisté son mari, Marie Halloween, dans son travail de compositeur. Bon, il faut nous rappeler qu'il fut son professeur. Elle a même créé une fondation après son décès en 1985 pour promouvoir sa musique, entre autres activités de cette fondation. Et quant à elle, elle aurait repris ses propres activités personnelles de musicienne après le décès de son mari. Car à part la composition de musique de film, elle en a d'autres à son actif, hein, d'autres genres. Alors il s'agirait plutôt de musique classique, dans lesquelles nous trouvons des concertos pour piano et cordes, des sonates pour piano ou des compositions pour quatuor à cordes et aussi pour orchestre. Et c'est après une longue carrière, hein, quand même, qu'elle décédera à 80 ans en 2003. Alors nous allons terminer avec Doreen Marie Carwitten, ou Marie Halloween, hein, puisque c'est aussi de cette manière qu'elle se faisait appeler en tant qu'épouse, avec l'une de ses compositions, mais dans un autre registre, une musique donc qui n'aurait pas été composée spécifiquement pour un film. Aussi, je vous propose un prélude daté de 1964 qui s'intitule « Suffolk Suite ». J'aimerais que nous nous affranchissions un peu des anglo-saxonnes, des américaines, très présentes dans le milieu cinématographique de cette fin 19e, début 20e siècle, que nous les quittions pour voyager davantage, toujours dans le monde du cinéma, et que nous rencontrions encore de ces femmes réalisatrices ou scénaristes, voire productrices, lorsqu'elles n'étaient pas actrices. Alors revenons un peu en Europe, puisque j'ai sous la main une productrice, scénariste, également auteure et éditrice portugaise cette fois-ci, laquelle est née en 1874, et donc au XIXe siècle, et qui se nomme Virginia de Castro et Almeida. Alors celle-ci aussi fait figure de pionnière, surtout dans ce domaine, hein, le cinéma, à une époque, le XIXe siècle, dans ce pays, le Portugal, où nous ne nous attendrions pas à y voir évoluer une femme avec autant d'entre-gens. Mais vous avez compris que c'était un peu la règle partout dans le monde, que les femmes dominent sur l'industrie du cinéma muet, cette fin 19e, début du 20e siècle. Mais avant de s'engager dans le cinéma, je vous ai dit qu'elle était auteure, écrivaine. En tout cas, c'est ainsi qu'elle a commencé sa carrière, avec tout d'abord des histoires dramatiques, pour la poursuivre avec de la littérature pour enfants. Et elle est d'ailleurs considérée comme la pionnière de la littérature pour enfants au Portugal. Et c'est en 1894, à l'âge de 20 ans, qu'elle publie pour la première fois sous un pseudonyme qui est J, G-Y, un livre qui s'intitule « Fede Tandora », qui est traduit par « La fée tentatrice ». Or, c'est quelqu'un apparemment qui se sentait très concerné par l'éducation des enfants, mais aussi par celle des femmes, car elle publie à leur intention pas mal d'ouvrages pratiques d'éducation également, ce que j'appellerais des livres pratiques d'éducation domestique. En ce qui concerne les enfants, elle fait preuve d'une volonté de leur donner le goût de la science, hein, des sciences. Aussi, dès 1907, publiera-t-elle des ouvrages pour intéresser et initier les enfants à la science. Alors, elle s'est également investie pour promouvoir la littérature portugaise à l'étranger, puisqu'elle a vécu en France et également en Suisse, et a donc traduit des œuvres importantes de la littérature portugaise. Alors, ce sont par exemple des auteurs tels que Luís de Camões, un poète portugais né au XVIe siècle. Alors, si vous vous intéressez à la poésie et l'histoire du Portugal, c'est Camões qui a composé les Lusíadas, une série de 10 chants retraçant l'expédition de Vasco de Gama vers les Indes. Alors, elle a également traduit Garcia de Recende, un poète, architecte, musicien portugais. Bon, c'est un personnage qui semble multiplier les casquettes. Celui-ci est également né au XVIe siècle. Il aurait plutôt composé des vers à l'attention des grands de l'époque, hein, comme les princes ou les rois du Portugal. Au travers de son travail, nous sentons bien que Virginia de Castro et Almeida répand la culture, l'histoire du Portugal à l'étranger. Elle a présenté des figures historiques notables, parmi eux les grands navigateurs, des colons, car comme vous le savez, les Portugais, eh bien, c'est aussi en partie un peuple de la mer, et ils étaient de grands marins et des conquérants. Ce qui veut dire que ce petit pays, par sa taille, fut grand par ses ambitions de s'ouvrir sur le monde. Et comme elle était traductrice, elle a également traduit des œuvres de littérature étrangère, comme celle de la française George Sand, de l'anglais Charles Dickens ou de l'espagnol Cervantes, et d'autres encore. Alors, je vous ai dit que c'était à partir de 1918 qu'elle décida de vivre en France et en Suisse. Et c'est pour se tourner également vers le cinéma dans les années 20 et fonder sa propre société de production, La Fortuna Film, en 1922. Alors, elle écrit de longs métrages que le réalisateur français Roger Lion réalisera, dont les titres sont « Acereia de Pedra » de 1922, que l'on peut traduire par « La sirène de pierre », inspiré de son roman intitulé « Au bras do demonio », hein, qui peut être traduit par « L'œuvre du démon ». Et le second film s'intitule « Os olhos de alma » de 1923, traduit par « Les yeux de l'âme ». Alors, j'ai lu qu'en tant que pionnière, elle a participé activement à développer le cinéma muet au Portugal. Et d'après ce que j'ai compris, elle aurait cherché, avec le cinéma, à mettre aussi en avant son pays, le Portugal, à assurer sa promotion au travers d'une intrigue quelconque. Alors, l'un de ses films a été perdu. Il s'agit de Acereia de Pedra. Le concernant, j'ai lu que sur fond de mélodrame où évoluaient des personnages dans des situations plus ou moins compliquées et dramatiques, cette intrigue tourne autour d'une jeune femme quelque peu sulfureuse, comparée à une sculpture de pierre. Le film a pour décor un monument national réputé, le Convento de Cristo, le couvent du Christ, situé dans la ville templière de Tomar, elle-même située dans le district de Santarém, à peu près au centre du Portugal. Quant à l'autre film, intitulé Os Olhos da Alma, Les yeux de l'âme, bon, que les Portugais me pardonnent pour la prononciation, la caméra valorise deux beaux paysages naturels du Portugal, aussi des monuments nationaux comme le Mosteiro de Batalha, c'est-à-dire le grandiose monastère de style gothique de Santa Maria da Vitória, situé à Batalha, au centre du Portugal. Et elle dirige donc les projecteurs sur les traditions populaires dans le village de pêcheurs de Nazaré, situé dans la province de l'Extremadure. Et l'intrigue générale tourne autour de deux clans de propriétaires de bateaux qui s'affrontent avec tous les problèmes qui peuvent en découler sur la population locale. Alors, je n'ai pas vu le film, mais j'ai essayé de recouper les informations en espérant être tombée le plus justement possible sur la vérité de ce film. Mais, paraît-il, le climat n'était pas des plus calmes sur le plateau, qui a opposé le réalisateur Roger Lyon à l'auteur, productrice Virginia de Castro y Almeida, puisque des conflits, paraît-il, assez violents ont éclaté et que le réalisateur a claqué la porte, c'est-à-dire qu'il a démissionné, laissant la productrice se débrouiller pour terminer son film sans lui. Bon, ce qu'elle a fait apparemment, et cette expérience ne l'a apparemment pas beaucoup démontée, puisqu'elle s'apprêtait à recommencer un autre tournage avec un autre cinéaste, un Français également, nommé André Hugon, mais la faillite de Fortuna Film en 1925, hélas pour elle, lui a donné rendez-vous pour mettre un terme à tous ses projets cinématographiques. Alors, elle aurait tenté de fusionner avec une autre société de production, la Invicta Film, mais apparemment, cela n'a pas fonctionné et elle a abandonné le cinéma pour revenir à la littérature. Et par la suite, j'ai également lu qu'elle fut déléguée au gouvernement de l'homme d'État Antonio de Oliveira Salazar à la Société des Nations. Elle a édité deux petits livrets sur l'histoire et la doctrine diffusés par l'Estado Novo, ce régime autoritaire de la Seconde République portugaise établie en 1933 sous l'impulsion de Salazar. Et c'est en 1945, à l'âge de 76 ans, qu'elle décédera. Eh bien, nous terminons cette émission de La Voix des Arts avec Virginia de Castro y Almeida, qui nous a fait revenir dans ce beau pays qu'est le Portugal. J'espère que cette réalisatrice vous a donné l'envie d'en savoir plus sur elle et aussi sur son pays. Nous irons encore ailleurs dans une prochaine émission, peut-être dans des pays qui nous paraîtront insolites, tant nous ne nous attendons pas à y trouver des productrices, réalisatrices de cinéma. Mais nous verrons cela une prochaine fois. En attendant, je vous remercie de votre écoute de La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.